Monsieur le professeur Roland Recht, qui était professeur d'histoire de l'art européen médiéval et moderne au Collège de France, qui est honoraire maintenant, mais qui l'a été de 2001 à 2012, nous honore de sa présence et de son commentaire de conclusion. Et ensuite, on dira un mot de la fin pour remercier.
Heureusement que la durée des conclusions n'est pas imposée, parce que je voudrais qu'elle soit brève, et vous aussi sans doute. Évidemment, il n'est pas question de résumer une journée aussi riche par des courtes synthèses, et peut-être ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Je voudrais éclairer cette fin de journée par quelques approches, je dirais, qu'on pourrait faire, non pas présentant cela comme des lacunes que j'aurais la prétention de combler, pas du tout, mais plutôt comme d'autres manières d'entrer dans les thématiques qui ont été abordées. D'abord, je constate que cette journée a été consacrée finalement à la mise en présence à la fois d'une institution ou d'institutions de collection publique, il s'agit du musée, du Louvre, bien entendu, mais assorti ou augmenté d'un lieu d'enseignement, et d'un autre côté, d'un enseignement public. Et au fond, les deux posent la question du public. À quel public s'adresse le Collège de France quand il enseigne l'histoire de l'art, quand on y enseigne l'histoire de l'art, et à quel public s'adresse, par exemple, l'École du Louvre, ou même, d'une certaine manière, utilisant le musée lui-même, comme on l'a dit, comme un laboratoire. Et puis, il y a aussi la question prosopographique. Toutes ces personnalités qui ont été évoquées montrent que constamment, ce sont des jeux de personnes, des jeux d'influence, de contact ou d'absence de contact, des carrières qui se font d'une manière que, personnellement, je trouve très étrange, comme celle de Huyghe. On ne va pas l'accabler, mais enfin, c'est vrai qu'on peut vraiment se poser des questions. Je n'ai pas connaissance d'un autre professeur du Collège de France qui nous raconte qu'il a rencontré quelqu'un en lui disant « Vous pourriez peut-être me présenter ». Normalement, le Collège suscite les candidatures, mais on ne peut pas être candidat au Collège de France. Bon, ça, c'est un point intéressant. Et il faudrait chaque fois, effectivement, je dirais, faire une sorte de tissu à partir de ces personnalités, voir comment les réseaux de sociabilité, mais aussi de collégialité, de compétences, se font ou se défont. Alors j'aimerais juste relever trois ou quatre thèmes qui me paraissent se dégager de ces passionnantes contributions. Peut-être que le premier pourrait être le musée. Le musée dont... ma première intervention, je crois que c'était la vôtre, rapportait Émile Michel disant que le musée est une bibliothèque des critiques. Alors, c'est évidemment une vieille thématique. Le musée comme lieu d'instruction, mais comme lieu aussi de formation, non seulement du public, mais aussi des critiques d'art, des historiens. L'idée d'un musée simplement comme histoire de l'art visible est une thématique très ancienne, remonte au XVIIIe siècle, on l'a beaucoup développée, et autour de la Révolution française, vous savez que cette question a été abondamment débattue. Donc le statut même du musée va émerger constamment dans toutes ces candidatures, dans ces oppositions entre plusieurs candidats. Qu'est-ce qu'on en fait, finalement? Alors, au Collège de France, je dirais à la limite, on n'en fait rien, puisqu'on n'a pas de collection, on n'a pas de musée. Et le fait qu'il y ait beaucoup de professeurs, enfin beaucoup, un certain nombre de professeurs issus du corps des conservateurs est intéressant parce que c'est une période où on a encore d'une manière évidente la conviction qu'il faut lier les deux choses, qu'on ne peut pas enseigner l'histoire de l'art si on n'est pas devant des œuvres. Ça a été très bien dit à plusieurs reprises dans plusieurs communications. Ensuite, ce rapport de Lefranc, beaucoup plus tardif, qui nous parle d'un musée laboratoire, hein, une sorte de laboratoire pour la pensée, pour la connaissance historique, mais aussi pour la formation du public. Et enfin, j'ai été frappé par, là encore, c'est Huyghe, quand il parle de Faucillon, dont il dit, cette phrase est surprenante, dans la bouche de quelqu'un d'autre, il est à la fois un remarquable universitaire et il est aussi un homme de musée. Bah, c'est ce que René Huyghe lui-même veut être. Donc il trace là une sorte de voie royale. Rétrospectivement, ce serait celle empruntée par Faucillon, ce qui est vrai, mais dans l'avenir, ça pourrait être la sienne aussi. Mais donc cette idée que le musée est un lieu d'exercice, un lieu où on apprend à voir et on montre au public comment il faut regarder les œuvres, et en même temps qu'il est aussi une source de, j'allais presque dire, de production de la pensée critique. Un des aspects qui me paraît très important aussi dans ces exposés, c'est la relation entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Allemagne. Alors, ce n'est pas toujours explicite. Je dirais même souvent, ça ne l'est pas. Ça l'est par le passage à travers l'esthétique en particulier, dont on a dit l'origine de la pensée philosophique allemande, 1750, Baumgarten, et ensuite Kant et Hegel, bien entendu, qui va jouer un beaucoup plus grand rôle encore, dans la mesure où Victor Cousin, qui va avoir une importance considérable comme introducteur de la pensée de Hegel en France, de l'esthétique de Hegel en France, va diffuser cette esthétique hegelienne. Alors, ça, c'est un aspect de la, comment dire, du contact entre la France et l'Allemagne. Et puis ensuite, l'histoire de l'art est une discipline ancienne en Allemagne, ça, je vous l'ai dit, mais il faut peut-être le ressouligner. Même si Winckelmann est considéré comme le premier historien de l'art, il est quand même l'historien de l'art antique. Et l'histoire de l'art va véritablement connaître son vrai développement lorsqu'on aura effectivement franchi le pont entre l'Antiquité et les temps modernes. C'est ce que vont faire des historiens de l'art comme Rumor, Wagen ou Kugler en Allemagne. Là, nous sommes avant le milieu du XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe encore, ensuite, pardon, avec l'esthétique en France? Je l'ai dit ce matin déjà dans une brève intervention, mais je crois que c'est une question sur laquelle il faudrait absolument se pencher encore plus. Émilie l'a fait très bien, mais je pense que vous avez amorcé quelque chose qu'on pourrait vraiment développer, c'est quelle est la définition française de l'esthétique? Là, je dois dire, je ne pourrais pas répondre, mais vous peut-être, vous non plus. Bon, je ne peux pas répondre à la définition française de l'esthétique, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle est là tout le temps, cette esthétique. En fait, on ne sait pas la définir, mais elle est une accroche formidable, elle est une enseigne pour une chair. Donc, esthétique, ça va très bien. Et bien sûr, en effet, c'est la définition de loi, c'est la définition du beau. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas faire un cours d'un an pour définir le beau. Eh bien, apparemment, si, parce qu'on passe par les objets. Évidemment, cette esthétique est en effet une esthétique pratique, c'est évident. Alors, j'ai beaucoup aimé l'exposé de Claire Barbillon aussi, quand elle nous parle de la question d'esthétique telle qu'elle est traitée par Charles Blanc. Lorsque Charles Blanc est préoccupé par sa grammaire, il trouve en effet une sorte de, j'allais dire presque de solution sémiotique avant l'heure pour l'esthétique. C'est-à-dire comment, quelle grille pourrait-on apposer pour lire les œuvres d'art? Et alors je me demandais, là aussi je reste sur une question, ce n'est pas vraiment fait pour une conclusion, mais enfin, je reste sur une question. Cette idée de grammaire vient pas mal de temps tout de même avant Evelflin et Schmarsow. Mais tous les deux ont cette préoccupation, d'autres manières, mais ce sont aussi des pensées anhistoriques, c'est-à-dire comment définir le baroque, à la limite à toutes les époques de l'histoire, comment définir quelque chose comme une grille de lecture du vitrail, comme le fait Schmarsow. Il y a là vraiment quelque chose de très étrange. Je ne veux pas dire que tout à coup la pensée esthétique française nourrit la pensée esthétique allemande, parce que ce sont deux choses complètement différentes. Néanmoins, Cela veut peut-être dire que Blanc est sur une bonne voie. Il sent quelque chose qui est juste, même s'il le traite d'une façon qui est parfois très naïve. Hein, je veux dire les choses comme ça. Je ne vous vexe pas, Claire, en disant ça. Bon. Bon. Je plaisante. Alors, l'autre question encore, qui est liée à celle de l'esthétique. Qu'est-ce qui fait obstacle en France à l'histoire de l'art ? Qu'est-ce qui fait que, dans les premières créations de Cher, on a le sentiment que, comme ça a été dit très justement à un moment donné, l'histoire de l'art est là comme une sorte de wagon qu'on accroche à l'esthétique. L'histoire de l'art pour justifier l'esthétique, pour permettre l'esthétique. Qu'est-ce qui fait obstacle à ça ? Alors, je crois que là, il y a vraiment un ensemble de réponses qu'on peut donner qui sont relativement simples. Il y a d'abord le poids immense de l'archéologie, la tradition archéologique en France. Ça, c'est évident. L'archéologie a pesé de toutes ses forces, a une légitimité, ne serait-ce que grâce à l'existence de l'école des Chartes, où elle se pratique aussi au-delà de l'Antiquité, donc pour le Moyen-Âge. Elle a sa légitimité aussi à l'école des Beaux-Arts, hein, tous ces architectes qui vont en Italie et qui sont en contact avec l'art antique. Donc, voilà. Et puis, vous l'avez dit ce matin, Rouchot qui, pour l'école du Louvre, voudrait en faire une école pratique d'archéologie. Une école pratique d'archéologie. Donc l'archéologie est vraiment une discipline qui a une position dominante au XIXe siècle en France. La théorie de l'art aussi. Mais une théorie de l'art qui n'est pas du tout l'équivalent de la Kunstwissenschaft allemande, qui serait plutôt issue du XVIIIe siècle, je dirais du XVIIe et du XVIIIe siècle, par les fameuses conférences de l'Académie. Comment à l'Académie on définit peu à peu, parce que ce sont les artistes qui le font, on définit peu à peu l'idéal de l'art. À la limite, je dirais, qu'est-ce qu'un bon tableau, qu'est-ce qu'un mauvais tableau, hein. Il y a une sorte de discours sur la possibilité de l'art. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle ? Alors, voilà déjà deux éléments. L'existence d'une tradition qui n'est pas historique, mais qui est critique et qui est essentiellement détenue par les artistes eux-mêmes, le discours des artistes sur l'art. Ça, c'est extrêmement important. Et même revendiquer une légitimité pour l'artiste qui est encore valable pendant la Révolution. À la Révolution, on nomme des conservateurs qui sont des artistes, qui ont travaillé, qui ont peint, qui ont exposé et qui ont le droit de juger de ce qu'on va acheter. Alors, il y a de gros débats là-dessus, justement pendant la Révolution, où certains doctrinaires s'emportent contre cette possibilité en disant « mais comment voulez-vous que ces artistes achètent objectivement, puisqu'eux-mêmes sont producteurs d'art ? Donc on ne peut pas les considérer comme comme faisant partie d'un comité d'achat. » C'est un vieux débat qui est encore valable aujourd'hui. Hein, là, est-ce que l'artiste peut avoir un discours légitime sur les œuvres d'art en tant qu'historien de l'art ? Je parle de cela, je ne dis pas en tant que peintre, évidemment. Alors, un autre point, et ce sera le dernier, la question du Moyen-Âge. La question du Moyen-Âge est très intéressante parce qu'on s'aperçoit que finalement, le premier vrai titulaire d'une chaire médiévale, c'est Faucillon, indiscutablement. Bon, Émile Malle a échoué, par contre il a été pris à la Sorbonne comme professeur, même le premier titulaire d'une chaire d'art chrétien du Moyen-Âge, auquel va succéder aussi Faucillon. Donc Faucillon va brusquement occuper, à partir des années 20 et surtout 30, une position hégémonique, absolument. Le Moyen-Âge de Faucillon est un Moyen-Âge très différent, par exemple, de celui qui est pour Gabriel Millet, le Moyen-Âge byzantin. Pour Gabriel Millet, le Moyen-Âge byzantin, c'est essentiellement l'iconographie chrétienne. Et son grand livre, sa grande thèse, magnifique, encore aujourd'hui tout à fait valable, porte sur l'iconographie chrétienne. L'importance de Faucillon, c'est parce qu'il déplace son centre d'intérêt sur la forme, sur l'étude de la forme, qui suppose la connaissance à la fois de l'histoire de l'art allemande, bien entendu, mais qui suppose aussi la connaissance de la psychologie de l'art telle qu'elle est élaborée à la fin du XIXe siècle, et même, je dirais, de la sociologie de l'art. Donc Faucillon est, de ce point de vue-là, quelqu'un qui ouvre l'horizon d'une manière absolument remarquable. Ce n'est pas par hasard que Huyg essaye de se mettre sous son aile, de se placer dans sa tradition, en tout cas. Et cet événement, qui peut paraître mineur dans le temps, qu'est le premier cours de Viollet-le-Duc, où il a pu prononcer un mot, ou deux, je ne sais plus trop, qui a été caractérisé, je me demande si ce n'est pas Kant d'ailleurs qui dit ça, Maxime Kant, un chahut babylonien, hein, c'est ça, chahut babylonien. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, toute l'école des beaux-arts refuse absolument de prendre en compte le Moyen-Âge comme une époque qui serait précisément dans le prolongement de l'Antiquité. Et nous sommes dans les années 1860. Alors que l'école des chartes existe déjà, il y a là quelque chose qui est absolument intéressant et important. D'où aussi, je crois, une explication, peut-être un peu mécaniste, du succès de Courageau. Si Courageau va devenir une figure essentielle, très populaire, très écoutée, et Vitry est un élève de Courageau, par exemple, il y a toute une succession de grands noms de l'histoire de l'art qui respectent énormément Courageau et qui font même parfois, je dirais, l'impasse sur les dérapages de Courageau pendant ses cours. Il s'emportait, il s'enflammait, tout juste, il ne montait pas sur les tables, il faisait des grandes proclamations qui étaient parfois d'une très très grande violence. C'était une façon d'instrumentaliser les objets du musée pour une idéologie qui n'est pas très éloignée de celle que va développer, par exemple, un Strigovski, c'est-à-dire de mettre en place une interprétation de l'art absolument qui bouleverse complètement les canons historiographiques habituels pour dire que c'est l'art français. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est pas français, c'est le résultat de courants venus de l'Est, du Nord, mais certainement pas d'Italie, ou très peu d'Italie. Donc il y a, je crois, dans ces prises de position, quelque chose d'extrêmement important qui s'explique aussi par le contexte de l'époque, que nous comprenons peut-être un peu mieux aujourd'hui. Il y avait à ce moment-là de grands mouvements d'immigration d'Italiens en France, et il y avait des moments de grande violence opposant des Français de souche à ces Italiens qui venaient là travailler et, entre guillemets, prendre leurs emplois. Oui, c'est un discours qu'on comprend assez facilement, enfin, qu'on comprend, je veux dire qu'on entend facilement. On sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Voilà, donc l'introduction de l'art médiéval est une affaire importante, intéressante, qui pourrait être un thème de réflexion, je dirais, depuis, en fait, le 19e, précisément, depuis l'école des Chartres, depuis le chahut babylonien de ce pauvre Viollet-le-Duc, et ensuite jusqu'à Faucillon. Voilà quelques remarques, comme ça, en passant, excusez-moi de la légèreté avec laquelle je les présente, parce que je n'ai évidemment rien préparé. Je vous ai écouté, et puis au fur et à mesure, les choses me sont un petit peu revenues à l'esprit, ou les choses, vous les avez fait naître dans mon esprit. Et je voudrais simplement dire que cette journée que vous avez organisée a été extrêmement intéressante pour moi. J'y ai appris beaucoup de choses. J'ai vu aussi, qui n'est pas sans intérêt, comment des regards extérieurs, même si vous travaillez au Collège de France depuis un moment, mais des regards extérieurs peuvent percevoir le Collège de France, hein, comme si vous aviez la tentation de l'aligner toujours sur des institutions connues, alors que c'est un endroit où rien ne se fait comme ailleurs. Hein, il faut absolument se distinguer, sans doute c'était une volonté très ancienne, où rien ne se passe comme ailleurs, ne serait-ce que par les histoires de crédit de chaire dont j'ai parlé, ou des candidatures dans seconde ligne, etc., etc. Tout ça, ce sont des pratiques qui ont évolué indiscutablement elles ont évolué, mais très peu. C'est quand même une maison qui tient beaucoup au respect de la tradition et même au respect de certain nombre de rituels. Ça, c'est absolument évident. Mais bon, voilà donc le mot de la fin. Pour moi, c'est un grand merci pour cette journée et j'espère que vous nous organiserez une autre parce que tout la rend nécessaire. Donc.
Merci. Alors j'aimerais, peut-être que Jessica voudrait vous remercier aussi, mais je veux d'abord vous remercier beaucoup, remercier le public, les intervenants infiniment de vous être penchés sur ce sujet. Et on a parlé d'histoire contrefactuelle, et je pense que monsieur Compagnon serait absolument ravi de cette journée et vous remercierait aussi infiniment. Donc merci Jessica, mais je lui laisse la parole si elle veut.
Je crois que nous sommes un peu tous fatigués, donc je vais aller à l'essentiel. Mille merci. Mille merci d'abord parce que le travail de réflexion avait commencé en amont et je dois souligner à quel point j'ai été bien accueillie et chaleureusement accueillie par des historiens de l'art qui ne me connaissaient pas. Je n'appartiens pas à cette discipline. Et voilà, j'ai trouvé vraiment cet accueil très généreux et ça m'a permis d'apprendre beaucoup et ça a été très stimulant pour moi. Et voilà, donc mille merci pour ça. Et puis j'ai trouvé toutes les communications passionnantes. J'étais très sensible au fait que vous soyez allé beaucoup dans les archives, que vous ayez fait il y a eu un travail, mais immense, que je tiens à souligner de chaque intervenant. Et voilà, je crois que ça a donné toute la richesse et toute la nouveauté à cette journée. Donc, je sais que M. Compagnon vous écoutera vite et on discutera avec lui de s'il y a une publication en ligne, de ce qu'on va faire après de cette journée.